souvent le présentateur ou l'animateur qui est là pour parler de lui, donner son point de vue plus ou moins autorisé sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a partagé. Moi, j'ai envie de... Pour la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai été extrêmement marqué. Je vous dis, c'est un des films qui me semble être le plus réaliste en matière de films sur la prison. Et j'ai envie de demander à ce que quelqu'un ou des personnes prennent la parole pour dire, comme ça, à chaud, ce que vous avez ressenti autour de ce film, qu'est-ce que ça vous a inspiré, et sans tomber dans les discours construits, mais simplement, j'allais dire, voilà, à chaud que certains s'expriment sur ce qu'ils viennent de voir. En sachant que le premier qui débute a le mauvais rôle, bien évidemment, et que c'est le plus difficile. Alors donc, j'en appelle au courage.
Moi, je poserais simplement une question, c'est de savoir si l'emprisonnement doit être une punition ou s'il y a un souci de réinsertion et de réintégrer les gens qui ont pu se mettre en marge de la société.
C'est une déjà, le mot punition me gêne parce qu'il y a un côté moral dans, qui est effectivement lié à la culture judéo-chrétienne qui a sa forte empreinte dans ce pays. Je préfère appeler sanction parce que c'est le mot le plus juste. Et pour ce qui est, c'est pas un scoop que je vous apporte, mais si effectivement la loi, l'Assemblée nationale a dit que l'administration pénitentiaire a deux missions, c'est-à-dire maintenir les gens en détention et maintenir en sécurité, et la deuxième mission, eh bien, celle de la réinsertion des gens qui sont donc sous le coup de la loi.
Mais dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler vraiment ?
Et bien évidemment, laissez-moi terminer parce qu'effectivement, vous laisseriez penser que effectivement, je suis d'accord avec l'énoncé. Il est évident aujourd'hui et nul ne peut le contester sérieusement, j'allais dire pas même M. Clément, le garde des Sceaux, qui pourtant n'est pas à une tirade près, une tirade abusive ou excessive. Nul ne conteste le fait qu'aujourd'hui, la prison est le premier des éléments qui crée de la récidive dans ce pays. Nous avons aujourd'hui des prisons qui sont totalement contre-productives, si tant est qu'une prison puisse être productive. Aujourd'hui, nous créons en prison les conditions de récidive, donc nous créons avec, en notre nom, parce que la justice est rendue au nom du peuple français, et fabriquée avec notre argent, parce que c'est une administration qui, bien évidemment, fonctionne avec nos subsides, avec nos impôts. Nous sommes en train de créer aujourd'hui les conditions inverses de ce qui est, légalement prévu. C'est-à-dire la réinsertion, il n'y a pas. Aujourd'hui, on voit que la majeure partie des gens qui passent par la case prison, ce sont des courtes peines, globalement. Eh bien, ces gens-là passent leur vie, des années durant, à rentrer, sortir de prison. Et que rien n'est fait pour les réinsérer, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la prison, à cause du phénomène de surpopulation, ne peut générer que ça, ne peut générer que de la haine, ne peut générer que des situations dans lesquelles on laisse les gens, excusez-moi le terme, baigner dans leur jus. Mais c'est ça. Et évidemment, c'est pas à partir de ça qu'on peut créer les conditions pour que quelqu'un retrouve sa place dans la société. Là aussi, il faut toujours peser les mots. La question de réinsertion, c'est déjà un mot qui n'est pas juste. Il faut parler d'insertion parce que les gens que l'on met aujourd'hui en prison sont des gens qui n'ont jamais été insérés dans la société. Ce sont des gens qui sont cabossés depuis leur jeunesse. Et ça me plaît aujourd'hui d'intervenir avec l'appellation chaos social parce qu'effectivement, c'est bien le chaos social dans lequel nous trouvons qui produit les gens qui finissent aujourd'hui en prison. Parce que il faut être clair là-dessus, ce sont les pauvres qu'on incarcère. C'est le tiers-monde et le quart-monde qui est réuni. Et si aujourd'hui, parfois, des gens nous disent « Oui, dans la ville Lumière, il y a une prison, la prison de la santé », il y a plus de 80 nationalités réunies. Certes, c'est un chiffre qui peut dire « C'est vraiment le centre du monde », mais c'est le centre du monde de la pauvreté, la prison de la santé, et bien dit l'ensemble des prisons de France et de Navarre.
Je voudrais juste vous demander si vous êtes par rapport au film, J'ai pas un contexte, j'ai écrasé quelque chose.
C'est vrai que je ne suis pas très poli, j'aurais pu me présenter peut-être avant et me dire ce que je suis par rapport au film. Le film a été fait par Bénédicte Liénard, qui est belge, qui a fait ce film militant, c'est une fille qui était militante, qui était membre il y a quelques années de cela de l'Observatoire international des prisons, de la branche belge de l'OIP. et je suis le président en exercice de l'Observatoire international des prisons, section française. Voilà pour ce qui est de mon activité présente. J'ai été prisonnier politique pendant 17 ans. J'ai fait 17 ans de prison en France, et ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner et à parler de ce film. Et si je parle de ce film que j'ai accompagné lorsqu'il est sorti en France, c'est parce que je trouve qu'il est effectivement très, très réaliste par rapport aux conditions de détention, par rapport à l'état d'esprit, non seulement des personnes détenues, mais aussi du personnel surveillant. Vous voyez là, dans ce film, j'allais dire, toute la panoplie un petit peu de ce qui peuvent être les réactions humaines en détention, que ce soit côté prisonnier comme côté personnel surveillant. Vous voyez de l'héroïsme comme de la lâcheté, j'allais dire, partout. Et c'est ça la prison, j'allais dire. C'est ça la prison, comme c'est dehors aussi, évidemment. Voilà. C'est un peu plus cadré. Quoi, bien.
Moi, j'ai bien aimé le parallèle qu'il y avait entre l'usine et la vie difficile en usine, et finalement la vie difficile dans la prison. Oui. Le parallèle de la vie de ces femmes, en fait, quand elles rentrent tous les jours dans leur... dans leur usine, là, c'est pas plus joyeux que les portes qui se referment.
Tout à fait. Et on voit même les grilles, les grilles tournantes de l'usine, qui font effectivement penser à cet univers carcéral avec des barreaux, etc. Une chose qui est rappelée dans ce pays, quand même, qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme, le droit du travail ne s'applique pas dans les prisons françaises. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose à rappeler, c'est que les textes disent que le travail doit être un ressort sur lequel les personnes détenues doivent baser leur vie future, leur réinsertion. C'est-à-dire que le travail en prison doit être quelque part un élément qui aide à prendre conscience que, eh bien, pour gagner sa vie dehors, il faut travailler, et que la légalité tient au rapport qu'on a avec le travail. Je pense aujourd'hui ne pas me tromper en me disant que... parmi les milliers de personnes détenues qui travaillent aujourd'hui dans les ateliers des prisons, il n'y a pas un seul, je dis bien, il n'y a pas un seul qui vit autrement le travail pour lequel le travail qu'il fait en prison comme une forme d'exploitation. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que les prisonniers qui travaillent vivent une situation d'exploitation. Et que, bien évidemment, ce n'est pas sur ces bases-là que les gens peuvent dire, eh bien, moi, quand je sortirai de prison, je repartirai dans ma vie sur la base d'un travail salarial, etc., etc. C'est bien, effectivement, des conditions d'exploitation, il faut le dire clairement. Et c'est même d'autant plus honteux qu'il y a des gens, aujourd'hui, je pense particulièrement à des Chinois, qui sont à la maison d'arrêt de la santé, qui ont été arrêtés pour du travail qui ne respecte pas les conditions, j'allais dire, du travail légal en France, qui se retrouvent au fond des cellules à la prison de la santé, et qui font du travail qui ressemble fort à ce qu'ils faisaient et qui était illégal, ce qu'ils faisaient dehors. Il y a aujourd'hui, par exemple, des patrons qui viennent... Alors, évidemment, le travail en prison, c'est pas du travail de haute technicité, c'est bien souvent remplir des sachets avec des boulons, des vis. Par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui utilisent les produits de qualité qui font le renom de la France, des produits très très chers. Mais il faut savoir que la majeure partie de ces produits haut de gamme sont mis en carton dans les établissements pénitentiaires. Donc, lorsque vous utiliserez des produits de qualité, vous penserez que derrière, il y a une petite mimine de prisonniers exploités dans les prisons françaises. Donc, le travail, c'est ça. Aujourd'hui, en prison, c'est véritablement une exploitation. Et il semblerait que les choses ne vont que... en s'aggravant, parce que vous savez que nous sommes engagés depuis quelques mois dans un programme de construction de prisons privées. C'est-à-dire que le gouvernement français a accepté l'idée que des entreprises du privé construisent, entretiennent les prisons pour des bails de 15 à 25 ans. C'est-à-dire que l'État n'aura pour charge que le gardiennage et le greffe, c'est-à-dire le côté administratif de la prison. Tout le reste sera du domaine du privé. Alors pourquoi cette situation est extrêmement grave ? Alors évidemment, ce n'est pas une idée made in France, hein. Ce sont des choses qui nous viennent des États-Unis, là encore. Eh bien, ce qui est à dire, et pour faire court, et pour expliquer relativement clairement, il faut dire que ce qui se construit aujourd'hui avec les prisons privées ressemble un petit peu à ce qui se passe dans, je pense que vous avez vu des reportages sur les mines à ciel ouvert qu'il y a en Amazonie. Vous voyez, ça fait de superbes photos, vous voyez des grappes humaines d'hommes exploités qui apportent de lourds sacs avec de la terre dans lequel il y a des pépites d'or, etc. Eh bien, aujourd'hui, on peut faire un comparatif entre cette réalité-là, déjà sinistre, une véritable situation d'esclaves, et avec les prisons qui se construiront à partir de 2008. 2008, parce que bien dans ces prisons, il y aura le patron du privé qui va donner à manger, contre rémunération de l'État, bien évidemment, trois fois par jour aux prisonniers. Des rations légales, mais insuffisantes. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, manger n'est pas, j'allais dire, comme pour une personne de dehors, simplement un besoin vital deux ou trois fois par jour. Il y a aussi, c'est une façon de couper, de sectionner la journée au travers d'une activité qui est plutôt agréable. Et donc, le prisonnier lambda, en général, mange plus ou plus souvent qu'une personne citoyenne qui travaille, qui a une vie normale dehors. Donc, le privé finance trois repas par jour, donc contre les rémunérations de l'État, aux prisonniers. Mais ça ne suffit pas à manger. Donc, le détenu aura besoin d'acheter à la cantine. La cantine, c'est le magasin qui est dans tout établissement pénitentiaire. Et donc, pour cantiner des produits complémentaires, il faudra de l'argent. Donc, la cantine, c'est toujours le même patron qui est bénéficiaire, celui qui donnait trois fois par jour à manger. Pour avoir de l'argent pour cantiner, il va falloir travailler. Il va falloir travailler dans l'atelier du même patron, etc., etc. Donc vous voyez que c'est le patron du privé qui aura le bénéfice de toutes les actions humaines des personnes incarcérées. Alors, la première chose à dire, c'est que les pauvres qui aujourd'hui, que malheureusement on ne voit plus dans la société, ils sont tellement présents, mais tellement absents à nos yeux, ces gens-là, ne rapporte rien au système, ne rapporte rien au patronat. Eh bien aujourd'hui, il y a des patrons suffisamment pervers, des multinationales suffisamment pervers, qui ont inventé une façon de rentabiliser la vie de ces pauvres-là. Et la vie de ces pauvres-là est rentabilisée, non pas en les laissant sur les trottoirs parce qu'ils ne rapportent rien au système, mais en les mettant, en incarcérant ces gens-là. C'est comme ça que depuis quelques années, il y a des lois de plus en plus liberticides qui touchent aux jeunes, qui touchent les pauvres, et ces gens-là donc vont trouver une façon d'apporter de l'argent au système capitaliste en étant incarcérés. Donc nous sommes en train de créer véritablement les mêmes conditions que ce qui existe, avec ce que je vous disais précédemment, avec ces mines à ciel ouvert, parce que ces mines à ciel ouvert, bien le type, il donne sa force de travail au patron, le soir il dort dans des cahutes qui sont loués au même patron, le samedi il va dans les bars qui appartiennent au patron, ils vont voir les prostituées qui travaillent pour le même patron, et le même système qui existe au cœur de l'Amazonie et malheureusement bien ailleurs, eh bien ce système, quelque part, est reproduit dans le système carcéral français. Et ça, c'est effectivement une chose tout à fait détestable, une chose qui a été créée par le gouvernement actuel sans qu'il n'y ait beaucoup de publicité qui soit faite. Un dernier mot donc sur la création de ces prisons privées. Une chose, le garde des Sceaux a annoncé le 15 décembre 2005, donc il y a quelques mois, que c'est la société Eiffage, que vous voyez, grand créateur d'établissements, etc., divers et variés, de grands chantiers en France, Eiffage, donc, s'est vu confier la création des quatre premières prisons privées. Et l'information importante, c'est qu'au lendemain de cette annonce du garde des Sceaux sur toutes les chaînes de radio et de télé, la société Eiffage est montée de 3% en bourse. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'industrie de la prison, ce n'est pas une vision de l'esprit, ça n'a rien de théorique ou d'idéologique, c'est véritablement une réalité qui s'impose à nous et qui s'imposera aux plus pauvres de notre société.
Moi j'avais une question, justement, vous parliez de l'emballage des produits de luxe, ce qu'on voit dans le film, le pliage des cartes. Comment les sociétés sont-elles choisies pour pouvoir exploiter les prisonniers? Pourquoi telle ou telle société et pas une autre?
Il y a trois types de travail en prison. Il y a le travail des auxi, c'est le mot court pour parler des auxiliaires. J'aime bien les appeler les fonctionnaires les moins payés de l'État. En fait, ce sont des prisonniers qui font les travaux d'entretien, qui distribuent la gamelle, donc les repas, et ce sont les petits travailleurs du quotidien carcéral. Ces gens-là sont en moyenne aujourd'hui payés entre 150 et 200 euros par mois. Ça, évidemment, c'est pas un travail très valorisant, hein. Ils poussent le balai, ils poussent le chariot. Et Ça, c'est le premier mode de travail. Après, vous avez le travail au sein de la RIEP. C'est la régie industrielle des établissements pénitentiaires. C'est donc l'État qui s'est doté d'un statut pour une entreprise, qui a un statut particulier au sein de l'État, et qui donne du travail aux prisonniers. Il y a des ateliers, par exemple, de création des uniformes de surveillants. Il y a aujourd'hui des prisons où le détenu sort à 7h30 du matin pour aller aux ateliers et il passe sa journée à fabriquer des uniformes de surveillants. C'est vous dire si l'état d'esprit de ces gens-là doit être éclairé à la fin de la journée. Donc ça, c'est les gens de la RIEP. Ils construisent aussi des petits meubles qui sont nécessaires pour la vie en détention, que l'on met dans les cellules. Voilà, ça c'est donc la régie industrielle des établissements pénitentiaires. Et troisième donc forme, qui est peut-être la plus connue, qui est celle du secteur extérieur, c'est-à-dire le patronat qui fournit du boulot aux personnes détenues. Ces patrons-là, évidemment, ils ont le choix, normalement, soit de délocaliser, d'envoyer en Asie, au Maroc, leur travail. Ils trouvent que c'est plus intéressant de donner du travail aux prisonniers. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont habités par l'esprit, hein, ce sont des gens-là qui sont là pour gagner du pognon, et ils gagnent bien du pognon. Mais ça ne se bouscule pas. C'est vrai que le patronat français ne se bouscule pas parce que l'administration pénitentiaire est tellement emmerdante aujourd'hui avec les questions de sécurité. Lorsqu'il y a un camion qui doit apporter du matériel, il doit être visité dans tous les sens, tout ça, c'est du temps perdu par les patrons. Et que c'est vrai, ça ne se bouscule pas au portillon aujourd'hui au filet du travail de ce type-là. Mais ceux qui travaillent, eh bien, on sait bien qu'ils se font du beurre. Ils se font du beurre sur les personnes détenues. Et tout ça avec la garantie, bien évidemment, que le droit du travail ne s'applique pas. Il y a de cela une dizaine d'années, la direction régionale de Strasbourg avait fait même une vidéo, avait créé une vidéo qui était montrée dans certaines foires où le patronat français se réunit, dans des grandes messes entre gens bien. Et cette vidéo d'administration pénitentiaire vantait le travail en prison en disant « il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève, si un vous emmerde, vous signalez le nom au chef de détention et de suite il est débarqué ». C'est ça le travail en prison. Et ce film a le mérite, entre autres, de bien montrer le rapport qu'il y a entre ce que tu disais, le monde du travail, ce monde, j'allais dire, robotisé, et le monde de la prison, où là aussi, effectivement, on voit qu'il y a les mêmes ressorts qui jouent, et à un moment, on se dit, est-ce qu'on est à ce moment-là dans la prison, est-ce qu'on est dans l'atelier, dans l'usine, c'est, à ce niveau-là, c'est très bien.
Il y a une longue partie dans le film où on ne sait pas trop, on se mélange.
Ouais. C'est ça la subtilité aussi de ce film, qui démontre en fait que l'aliénation, elle est dans le monde du travail, comme elle est dans le monde de la prison, et au milieu, vous avez toujours pareil, toujours le même fonctionnement, hiérarchisé, bête et méchant. Alors évidemment, ce film, il a aussi cette honnêteté, je dirais intellectuelle, de démontrer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Hein. Vous avez vu, par exemple, un directeur qui était vacillant. Hein, ils ne sont pas tous comme ça, j'allais dire, malheureusement. Il y en a qui sont véritablement arrogants, qui assument le boulot qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui, on sent bien, j'étais encore il y a deux semaines en débat à la mairie de Paris avec un directeur régional, on sentait son visage transpiré du malheur qui était le sien de faire le boulot pour lequel il était payé. Ceci dit, je ne manque jamais l'occasion, lorsque je rencontre ces gens-là, de dire qu'il y a eu, parce que j'entends des directeurs, des cadres qui me disent « Oui, mais ça nous est imposé, les magistrats nous envoient des personnes détenues, alors on doit les prendre, avec la surpopulation, avec ce que ça génère comme vie de violence et d'indignité en détention. » À ces gens-là, je leur dis, je comprends parfaitement votre situation, mais il y a eu dans l'histoire de France des moments où les fonctionnaires ont dit « Basta, ça suffit ». Je ne ferai pas l'insulte de vous dire dans quelle période ces 50 dernières années. Il y a eu des fonctionnaires français qui ont eu, ils ont été rares malheureusement, à avoir des attitudes dignes et respectueuses. Et bien j'attends aujourd'hui des directeurs des établissements pénitentiaires qu'ils aient la même révolte, qu'ils aient la même dignité et de dire enfin, et bien maintenant je n'accepte plus que l'on me fourgue des personnes humaines comme détenues dans mon établissement parce que les conditions de détention ne sont pas dignes. Les conditions de détention ne sont pas en phase avec l'idée que l'on peut se faire du respect des droits de l'homme dans les prisons en France. Les solutions ?
Parce que moi je veux bien qu'on dise que ça ne va pas, etc. Oui. Mais on ne peut pas non plus dire ok, les crimes vont rester en liberté. Enfin, il faut trouver aussi des solutions.
Bon, alors je vais vous parler de mauvaises solutions et après je vous parle des bonnes solutions.
J'aimerais bien.
la mauvaise solution, c'est le gouvernement qui l'avance, qui dit « on va construire des prisons, il y a surpopulation, on va construire des prisons, le problème sera résolu ». Alors évidemment, c'est quelque chose qui est totalement irresponsable. Et ce n'est pas le président de l'OIP qui vous dit ça, j'allais dire par idéologie ou même par idéalisme, c'est tout simplement, je prends en témoin l'histoire avec un grand H. L'histoire nous apprend qu'en tout point du monde, lorsqu'on construit une nouvelle prison, eh bien, la nouvelle prison est de suite remplie et fait l'objet de suite de la surpopulation. On dit que la nature a horreur du vide, la prison aussi a horreur du vide. C'est-à-dire que la réponse que nous avance Clément et son gouvernement depuis 2-3 ans, eh bien, c'est une réponse qui est totalement mensongère au moins et évidemment irresponsable au mieux. Maintenant, quelle est la réponse responsable à la question de la surpopulation ? Eh bien, j'allais vous dire tout simplement, il faut sortir de prison les gens qui n'ont rien à y faire. Les gens qui n'ont rien à y faire. Et ils sont des milliers. Je vais vous citer comme ça quelques groupes humains qui composent aujourd'hui la détention et pour lesquels la réponse sociale responsable, il n'y a absolument pas de mettre ces gens-là derrière les barreaux. Par exemple, je voyais, il y a des militants là, qui s'affairaient autour des questions des étrangers. Les étrangers en prison, les gens qui n'ont commis que comme délit de ne pas avoir les papiers légaux pour vivre derrière les barreaux, ces gens-là n'ont rien à faire en prison. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, qu'il y a 21% de la population pénale en France qui est étrangère. Et dans ces 21%, 5% qui n'ont commis pour délit, entre guillemets, que l'absence de papiers pour vivre légalement sur les territoires de la République. Ces gens-là n'ont rien à faire en prison. Les mineurs. Il y a près de 700 mineurs dans les prisons françaises. Si vous les rencontrez, je pense que vous utiliserez de suite le mot d'enfant. Vous savez qu'on peut mettre en prison en France les gens, les enfants, depuis l'âge de 13 ans. Il y en a près de 700 aujourd'hui qui ont entre 13 et 18 ans. Ces gens-là ont des problèmes d'éducation. Et ce n'est pas en prison qu'on éduque, c'est pas en prison qu'on apprend la vie. Et ces enfants, ces jeunes-là, c'est la vie qu'ils doivent apprendre. Et ce n'est pas derrière les barreaux qui peuvent le faire. Il y a les malades. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens malades derrière les barreaux. Parce que la prison eh bien, accueille déjà beaucoup de gens qui sont qui ont des problèmes en particulier psychologiques, psychiatriques très importants. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'on vit dans une société de plus en plus difficile, une société qui rend les gens de plus en plus malades. Eh bien, les malades, aujourd'hui, plutôt que d'être soignés au nom d'une, là encore, d'une idéologie dominante, au nom de logique purement économique, eh bien, ces gens-là n'ont pas de place, n'ont pas de lit d'hôpitaux, et ces gens-là finissent aujourd'hui forcément en prison. C'est ça le grand malheur aujourd'hui des prisons françaises, que ce sont de plus en plus des annexes de la psychiatrie. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de totalement indigne de notre niveau de civilisation. Donc, ces malades-là. Mais il y a aussi des gens pour lesquels l'état de santé est incompatible avec la détention, des gens pour lesquels le pronostic vital est engagé. Eh bien, ces gens-là devraient bénéficier de la loi qu'on appelle la suspension de peine. La loi qu'on appelle, par ailleurs, la loi Kouchner, ou mieux, entre guillemets, la loi Papon. La loi qui a permis à Papon d'être libéré, la loi qui a permis à Loïc Le Floch-Prigent d'être libéré, la loi qui a permis à simplement 200 et quelques personnes d'être libérées. La majeure partie de ces gens-là sont en train de crever, la moitié à peu près sont morts dans les 6 mois suite à leur libération au bénéfice de la suspension des peines. Il y a encore des centaines de personnes détenues qui devraient bénéficier de cette loi-là. Le problème, ils ne s'appellent pas Papon, ils ne sont pas milliardaires comme Loïc Le Floch-Prigent, et ces gens-là sont condamnés à avoir pour horizon la mort au fond d'une cellule, avec pour unique horizon une fenêtre avec des barreaux autour, au milieu. Et donc voilà, je parlais des malades. Il y a aussi les personnes qui, pour les faits liés à la prostitution, se retrouvent derrière les barreaux. La réponse, ce n'est pas évidemment de mettre ces gens-là derrière les barreaux. Il y a les personnes âgées. Il y a 2 personnes en France qui ont dépassé l'âge de 90 ans. 90 ans, et ils sont toujours derrière les barreaux. À qui fera-t-on croire que ces gens-là représentent un danger pour la société? Donc il y a comme ça des groupes humains qui, évidemment, tous les gens pour lesquels la délinquance est liée au phénomène de la toxicomanie, ces gens-là doivent être aussi soignés. Le problème n'est pas un problème de simple délinquance et de sanctions. Il y a aussi tout un paquet, un énorme paquet, près de 10 000 prisonniers, sur les 60 000 dont on parle aujourd'hui en prison, à peu près 10 000 prisonniers qui sont condamnés à des peines inférieures ou égales à un an. Vous avez vu que dans les dernières manifs, des gens ont pris 3 mois de prison pour avoir cassé, brûlé une voiture. C'est très très facile aujourd'hui d'avoir 1 an de prison. Très très facile. Eh bien, nous considérons, l'OIP considère, mais au-delà de nous, d'autres aussi observateurs, considérons qu'il y a d'autres formes de sanctions à des conduites illégales pour ces gens-là que les foutre en prison. Parce que rester 1 an en prison, être condamné en prison, ça veut dire en moyenne rester à peu près 6-7 mois derrière les barreaux. 6-7 mois derrière les barreaux, c'est largement suffisant pour détruire définitivement une personne qui est soumise à la prison. Mais c'est totalement inutile pour donner les outils à ces personnes-là durant ce laps de temps de 6-7 mois pour qu'elles se relancent dans la société, qu'elles se relancent, j'allais dire, dans le corps social. Donc c'est véritablement des peines qui n'ont pas de sens, si ce n'est bien évidemment que de faire du chiffre, faire en sorte qu'un garde des Sceaux, mais surtout le ministre de l'Intérieur, dise « Voyez, on met tous ces petits trublions derrière les barreaux, on s'en occupe, votez pour nous, faites-nous confiance. » Le problème, il est que ces gens-là, eh bien, ce sont justement chez eux, chez ces 10 000 personnes, que se trouve le gros lot des gens qui font ce qu'on appelle la récidive. Des gens pour lesquels, eh bien, c'est l'aller-retour incessant entre la liberté et la prison. Donc vous voyez qu'il y a des milliers de personnes pour lesquelles la réponse que l'on appelle responsable n'est pas l'incarcération. Alors les réponses, quelles sont-elles? C'est bien évidemment ce qu'on appelle les alternatives à la prison. Par exemple, il y a des gens qui, il y a encore quelques mois, ont été incarcérés parce qu'ils ont été pris à ne pas payer le billet RATP ou SNCF une dizaine de reprises. Donc ils ont été en récidive pour non-paiement de titre de transport. Ils sont restés quelques semaines en prison. Inutile. Beaucoup disent, mais est-ce que la réponse responsable ne serait pas que ces gens-là, qui ont posé un problème à la RATP, SNCF, on pourrait en discuter longuement aussi, de la nocivité de leurs actes, et bien, est-ce que ça ne serait pas qu'ils aillent faire un travail d'intérêt général auprès de la SNCF, auprès de la RATP, plutôt que de les laisser croupir de façon inutile et tout à fait inintéressante pour la personne détenue, mais aussi pour la société en général? Est-ce qu'il ne serait pas mieux que ces gens-là fassent des travaux d'intérêt général? Donc, je vous donne un exemple, le pige, qui est véritablement une sanction, hein, mais qui est quelque chose qui ne représente pas le côté malsain, nocif de l'incarcération. Donc, tout ça pour vous dire que la réponse, elle existe. Ce n'est pas construire de nouvelles prisons, mais sortir de prison les gens qui n'ont rien à y faire. Comme je vous l'ai démontré, ce sont des milliers de gens qui n'ont rien à faire derrière. Ceci dit, comme je n'aime pas uniquement taper sur le personnel surveillant, qui le mérite bien souvent, et sur les magistrats, il faut dire aussi que la question de la sanction, question de la prison, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et quand je parle de travail d'intérêt général, il faut savoir que sont admis les gens au travail d'intérêt général, ceux qui, dans des associations, qui sont agréés pour, soit dans des mairies. Donc ce sont des gens qui sont de la société, tout simplement, dans les mairies et dans les associations agréées. Et si les magistrats savaient que des courtes peines, des petits délinquants comme ça pouvaient être confiés à des associations, à nous, eh bien, je pense que les magistrats n'auraient pas pour réflexe, comme ils l'ont actuellement, de foutre avec une signature les gens au fond d'une cellule. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de dire et de faire en sorte que les magistrats prononcent d'autres peines que la mise en détention. Donc, ça nous concerne tous.
Comment on fait alors? C'est vrai, moi, j'ai une société, par exemple, je veux dire, je me propose pour que les tiges viennent bosser chez moi.
Oui, eh bien, il y a deux choses. Tu es, excuse-moi le terme, chef d'entreprise.
Ouais.
Il faut appeler un chien un chat. J'ai rencontré, ça rejoint, la semaine dernière, j'étais dans le 8e avec 70 jeunes chefs d'entreprise et Loïc Le Floch-Prigent. Et je disais à ces types-là, qui évidemment n'étaient pas coutumiers du discours sur la prison et tout ça, c'était l'objet de ma visite, c'était pour ça que j'étais là, et je leur ai dit, mais si vous voulez vraiment avoir une attitude, ils avaient la même question que toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire, ça veut dire, la réponse est d'aller voir les services qu'on appelle les SPIP, services pénitentiaires d'insertion et de de probation, qui sont un petit peu les éducs, les assistantes sociales, entre guillemets, en milieu carcéral, aller voir ces gens-là et leur dire, voilà, moi je réserve dans trois mois ou dans six mois un poste pour un mec qui a les capacités à travailler dans mon entreprise. J'ouvre les portes de mon entreprise à un mec. Si les milliers de milliers d'entreprises avaient cette conduite, j'allais dire citoyenne, pour employer un mot un petit peu trop utilisé peut-être, je pense que ça serait une des pistes pour éviter la prison, que les gens qui ont, bien souvent, la chance d'avoir connu une trajectoire qui leur permette d'avoir des responsabilités, etc., etc., que ces gens-là disent, eh bien, moi, citoyen, chef d'entreprise, j'ouvre mon entreprise à un poste réservé à quelqu'un qui a des difficultés sociales et pour lequel je veux éviter la prison ou pour lequel je veux aider à la réinsertion en ouvrant les portes de mon entreprise. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des associations, eh bien, les associations peuvent faire les démarches auprès de la préfecture ou du procureur de la République pour avoir l'agrément de l'accueil d'un travailleur, d'un petit travail d'intérêt général. Et à partir de là, eh bien, on est en lien avec les services du procureur de la République ou services d'éducateurs de prison. Et là, eh bien, on peut vous confier des gens pour 10 heures, 40 heures, 110 heures pour des travaux dans le cadre d'un travail d'intérêt général.
Pourquoi, selon vous, l'État va préférer plutôt la solution de la prison à d'autres solutions ?
Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je réponde à la question ? Est-ce que,
franchement, je comprends pas.
La prison, comme je te l'ai
dit... Apparemment, c'est pas si compliqué. Enfin...
C'est une volonté politique. Mais tu vois, je disais, quand je vois l'intitulé « Chaos social », mais tu as la réponse là. Tu as la réponse là. Moi, quand on me dit comment il faut faire pour éviter la surpopulation, comment il faut éviter pour éviter l'emprisonnement des jeunes, je dis, c'est mon boulot de travailler sur la prison, de dénoncer les atteintes aux droits, les atteintes à la dignité de la personne détenue en prison. C'est mon boulot, mais je dis, la solution, elle n'est pas dans ces 190 prisons, dans cet espace fermé. La solution, elle doit être cherchée bien avant, dans les conditions de détention, dans les conditions de vie des gens qui finissent en prison. C'est au niveau de la politique de solidarité, au niveau de la politique d'intégration, politique du travail, des soins, de l'éducation, politique familiale. C'est tout
par
ça.
Esquive. Hein, la réponse que vous donnez, c'est par esquive.
Non, pour rentabiliser la pauvreté. Voilà, il l'a bien indiqué tout à l'heure. Ça coûte moins cher de mettre les gens en prison qui vont être enfin rentables à bosser gratos en prison que de les aider à vivre mieux, quoi. Ça coûte moins cher, donc on va rentabiliser la pauvreté.
Il y a un autre argument qui est absolument bidon, c'est celui d'exemplarité, exactement comme pour la peine de mort, où on dit ça va diminuer les... Oui, là, la prison, sanction...
Il n'y a pas d'exemplarité, la preuve, quand il y a autant de récidives, la récidive, ça veut bien dire que les gens ont mis la prison, si la prison avait cette vertu de faire peur aux gens, il n'y aurait pas forcément de récidive. Donc là aussi, c'est véritablement l'échec. Alors évidemment, il y a des intérêts financiers. Je vous en ai parlé avec les nouvelles prisons privées. Mais aussi, c'est un refus de gérer les problèmes sociaux autrement que par la prison, par la sanction, par la peur du gendarme, des tribunaux, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 20 ans, par exemple, le plus gros pourvoyeur des prisons, en chair humaine, c'était la DAS. La majeure partie des gens derrière les barreaux, c'était des enfants ou des adultes issus de la filière DAS. Aujourd'hui, le gros des troupes, au-delà de la question des gens qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques lourds, la majeure partie des gens qui finissent et qui ont leur destin tracé, ce sont les jeunes des cités. C'est clair. Et je ne manque pas l'occasion de dire souvent à ces hommes et ces femmes-là, vos grands-pères étaient la chair à canon, vos parents étaient la chair à patron, vous êtes la chair à prison. Et c'est aujourd'hui clair, et nul ne le conteste. Enfin, je veux dire, les observateurs, ils voient bien que les gens qui remplissent aujourd'hui les cellules sont issus de ce qu'on appelle l'immigration, sont issus des quartiers en difficulté. Et là, bien évidemment, la solution à tout ça, c'est bien évidemment de répondre à toutes les déficiences, à tout le gâchis que l'on provoque par des choix politiques et qui sont assumés avec le sourire et le beau discours par les dirigeants qui se disent responsables de ce pays.
On va admettre que la politique a fait des erreurs il y a 20, 30 ans, parce que c'est quand même ceux qui sont en prison là, on les a mal éduqués il y a 20, 30 ans. Et vous pensez réellement que d'un coup de baguette magique, tout ce qui est mal, ce qui engendre pour vous des personnes qui vont aller en prison, on va de suite améliorer les choses. C'est pas si simple que ça.
Oui, le problème, il est là.
En amont, c'est compliqué, mais le résultat, il est affecter ceux qui sont déjà dans une mauvaise situation et en même temps traiter le futur.
Oui. Un des problèmes importants, c'est justement cette notion au temps. Tu as parlé de baguette magique. Oui. C'est vrai que le gouvernement ou les gouvernements précédents ont réglé les affaires de délinquance vite fait, bien fait, comme ça, en disant, eh bien, en faisant du chiffre, en disant, mais on les passe devant les tribunaux, on les fout en prison, les autres, on les expulse, et effectivement, ça fait du chiffre, ça fait des résultats.
Et, ils n'ont pas réglé.
Et les, voilà, le problème, c'est
pour
que.
Pour pouvoir en profiter à chaque élection,
voilà,
que ça soit
personnel,
bien un thème de prédilection, qu'on puisse enfin et toujours parler de sécurité.
Voilà.
Donc les prisons, ça va avec. À qui ça sert? À Sarkozy, qu'on remplisse les prisons et qu'on ait besoin, soi-disant, de toutes ces prisons, c'est ce discours-là à qui il sert. C'est une évidence, il sert à Sarkozy.
Ouais. Et le problème, il est là, c'est que ces gens-là travaillent sur une durée de 3 à 5 ans. Leur seul objectif, pour ne pas parler d'obsession, c'est la prochaine réélection. Et évidemment, pour être réélu, ils misent sur la politique de sécurité, ils misent sur les résultats de cette politique de la matraque. Mais nous, je veux dire nous, les gens qui ont une vision humaine, tout simplement humaine, je ne parle pas humaniste, simplement humaine du fonctionnement de la société, on est bien conscient que des gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, vivent des situations catastrophiques. Les gens qui sont en prison, si tu parles 5 minutes avec eux, mais c'est des romans incroyables qui te racontent des vies saccagées depuis qu'ils sont tout petits. Et évidemment, ces gens-là, pour qu'ils retrouvent une place dans la société, mais là, ne m'engagez pas dans la discussion, oui, mais quelle société on veut, parce que sinon on ne s'en sortira pas, mais je suis de tout cœur avec vous. Et tout ça pour vous dire que, eh bien, pour que ces gens-là aient une chance de s'intégrer dans la société, mais ce n'est pas une question de 3-5 ans. Ça va être 10 ans, 20 ans, peut-être toute une vie, toute une vie. Et bien évidemment, c'est un espace-temps qui n'est pas l'espace-temps de ceux qui dominent, qui font les règles du jeu de notre société aujourd'hui. Donc effectivement, là, on est face à un véritable problème. Soit c'est le résultat, eh bien, on voit ce qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qui est mené par le gouvernement actuel, soit on mise sur l'avenir, mais miser sur l'avenir, ça veut dire qu'on fait pas un pari sur le moyen et le long terme. Et ça, c'est une autre philosophie, et ça, c'est vrai pour tout. La société ne va pas changer avec la fameuse baguette magique que tu évoquais. Il faut du temps pour ça, et d'abord de la volonté politique.
Je croyais qu'en prison, on pouvait reprendre des études, ou même apprendre à lire, etc. Enfin, qu'il y avait une possibilité de se réinsérer par là.
Par là, de la culture. L'éducation.
Oui, et c'est pas évoqué du tout dans le film.
Oui.
Pose la question.
Oui. Si vous regardez les textes en vigueur en France, les textes de loi, c'est merveilleux. C'est-à-dire, on a inventé la prison modèle. Le problème, c'est que, et c'est le commissaire européen aux droits de l'homme, Ril Robles, qui a rendu un rapport il y a 2-3 mois de ça, qui a fait pas mal parler de lui, qui a écrit dans son rapport qu'il y a un gouffre entre les textes qui sont censés s'appliquer dans les prisons françaises, et la réalité des prisons françaises. Il y a un gouffre. Et la question de l'éducation, de l'enseignement, de la culture, c'est véritablement là aussi un gouffre qu'il y a entre ce qui est écrit, ce qui est pensé, ce qui est parfois présenté publiquement, et la réalité. Alors évidemment, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de prisonniers qui écrivent, qui font même de jolis bouquins. Je ne te dirai pas qu'il n'y a pas de jeunes qui ont une formation professionnelle, mais c'est une minorité. Et le problème en France, c'est qu'il y a la politique de vitrine qui marche à bloc dans les prisons françaises. Par exemple, vous êtes une délégation européenne. Vous venez du Parlement européen, vous intéressez à la question de la prison en France. Alors vous allez aller d'abord, en tant que député européen, voir le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux, il va vous organiser une visite guidée de 8 jours exceptionnelle. Vous allez aller, par exemple, à la maison centrale de Saint-Maur, où il y a un atelier qui est aux mains de Nicolas Frise. Certains d'entre vous connaissent peut-être cet homme qui est un artiste, par ailleurs. Et là, effectivement, vous avez une douzaine de personnes détenues, longue peine, qui a une formation très pointue au niveau audiovisuel, etc. Et ces gens-là ont même des droits liés au droit du travail à l'intérieur. Donc c'est véritablement... Mais ce sont 12 personnes. Et c'est à Saint-Maur. Et c'est le seul établissement en France où il y a un atelier où on respecte pratiquement tous les textes en matière de droit du travail. Et après, on va vous faire visiter, par exemple, la Maison Centrale des Femmes de Rennes. Pourquoi Maison Centrale des Femmes de Rennes? Parce qu'il y a là-bas les UEVF, Unité Expérimentale de Vie Familiale. Il y a trois prisons, Rennes, Saint-Martin-de-Ré pour les hommes et Poissy pour les hommes, où il y a des appartements dans lesquels les personnes détenues peuvent rencontrer de 0 à 72 heures, une fois par trimestre, leur famille, leur femme, leur compagnon, peuvent avoir droit à l'intimité, à une vie sexuelle. C'est dans trois établissements. Et je rappelle, en France, il y a 190 prisons. Alors forcément, cette délégation, qu'elle soit européenne ou américaine, ils vont visiter cet établissement. Et les gens vont dire, c'est formidable quand même. Ils ont même droit à la sexualité. Mais ils ne savent pas qu'il y a 187 établissements où il n'y a pas la reconnaissance de la sexualité, de l'intimité. Là aussi, c'est un des scandales les plus importants de notre système carcéral en France. Il ne faut pas avoir fait 10-15 ans de médecine pour savoir que la sexualité concourt à l'équilibre des hommes et des femmes. Et quand je dis que la prison provoque, génère le déséquilibre des personnes détenues, c'est aussi là que j'en fais la démonstration, parce que nous maintenons pendant des mois, des années, voire des décennies, il ne faut pas oublier qu'il y a 9 mois de ça, on a libéré Lucien Léger au bout de 42 ans de prison. 42 ans sans vie sexuelle. Il faut dire aussi qu'on est dans ce pays où on règle, on organise la sexualité des animaux dans les zoos et qu'on ne reconnaît pas la sexualité des personnes détenues, sauf dans ces trois établissements. On me dit, oui, les trois établissements, c'est le début. Oui, certes, c'est le début, mais il faut rappeler quand même qu'il y a des dizaines et des dizaines de pays, parmi lesquels des pays qu'on montre du doigt comme étant des pays sous-développés, comme on dit, et bien que dans ces pays-là, eux, ils respectent au moins la sexualité, l'intimité des personnes détenues.
Surtout qu'en France, là aussi, ils n'ont pas accès aux préservatifs en plus.
Comment ?
Puisqu'on ne reconnaît pas qu'il y a une sexualité, on ne leur donne pas accès aux préservatifs. D'après ce que j'ai entendu.
Non, le pire, ce n'est pas ça. C'est que les prisonniers ont droit aux préservatifs. Ils trouvent dans divers points, comme dans les points infirmerie des établissements pénitentiaires. Mais ça provoque évidemment l'énervement, l'agacement. Tu sais bien que le monde carcéral n'est pas un monde particulièrement, d'ouverture d'esprit. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et que, bien souvent, les personnes détenues disent « Ils nous prennent pour des PD ou quoi ?» Alors, c'est le discours quand ils voient des préservatifs dans certains établissements. Comment?
On sait bien que dans les prisons, il y a des rapports sexuels.
Oui. Mais les gens souffrent du fait que ceux qui ont la liberté d'avoir une relation homosexuelle, ils l'ont, et c'est normal, mais aussi ceux qui veulent avoir des relations hétérosexuelles, y compris avec leurs compagnes, leurs épouses ou leurs compagnons, ça par contre, ça ne leur est pas reconnu. Et la question est tellement perverse qu'aujourd'hui, dans les maisons centrales, il y a plus d'un prisonnier qui dit « Ben, moi aussi j'aimerais avoir accès à ces prisons où il y a possibilité d'avoir l'intimité, la sexualité, tout ça. » Mais qu'est-ce qu'ils disent les directeurs de prison, par exemple à Moulins, à Neuzan, où il y a des longues peines? Mais ils leur disent « On va vous mettre sur liste d'attente. Mais si tu veux aller à Saint-Martin-de-Ré, si tu veux aller à Voissy, il va falloir rester gentil, tranquille. » Et être tranquille en prison, c'est pas simplement ne pas se rebeller, ne pas revendiquer. Ça veut dire aussi parfois balancer. Donc voilà comment fonctionne le système carcéral français. Et je dis toujours qu'on ne peut pas attendre d'une machine qui dévore les êtres humains comme ça, qu'on en sorte des gens aptes à vivre comme des citoyens avec nous, tranquillement, respectueux de la loi, étant pratiquement fraternels à notre égard, alors qu'en détention, ils n'ont vécu que l'humiliation au quotidien, à chaque instant, et que leur survie en prison n'a tenu qu'au fait de travailler des ressorts, des mauvais ressorts de notre humanité. Parce que la prison, malheur à celui qui est gentil, malheur à celui qui est poli. En prison, pour rester debout, pour tracer sa route, il faut être violent, sur le plan soit psychologique, soit physique. Il faut mentir, il faut avoir l'esprit tordu, et c'est en permanence que votre survie tient à ces ressorts, ces mauvais ressorts de votre humanité. Comment voulez-vous qu'en maintenant des gens dans cette situation, des mois, des années, des décennies durant, qu'au sortir de la prison, ils deviennent tous sympatoches? Non, on produit véritablement en prison, depuis 200 ans, les récidivistes de demain. Et moi, quand on me dit, Mouiska, t'es bien beau, tu parles des prisonniers, tu es soucié d'eux, mais qu'est-ce que tu penses des victimes? Qu'est-ce que tu penses des victimes? Alors moi, je dis déjà, les victimes, elles ont leur association, et c'est très bien. C'est pas notre job, nous, à l'OIP. Par contre, je dis que si on respecte la dignité des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire par décision de justice. Si on respecte la dignité des personnes détenues, c'est déjà une bonne base pour que ces gens-là, au sortir de la prison, ne récidivent pas. Et les conditions actuelles de détention font que les gens qui passent par la case prison aujourd'hui sont majoritairement des gens qui sont potentiellement des récidivistes et qui vont donc demain créer à nouveau des victimes. Donc lorsque j'exige le respect de la loi dans les prisons, lorsque j'exige le respect de la dignité de toutes les personnes détenues, eh bien, je travaille à ce qu'il y ait demain moins de victimes, moins de récidives.
Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire respecter ces lois? Par exemple, vous dites qu'il y a 4 prisons en tout qui sont des vitrines, les 3 qui respectent l'intimité et une à Saint-Maur pour l'éducation. Et pourquoi on n'arrive pas à faire respecter ça, puisque c'est dans les textes?
La prison, c'est pas ancien, ça a 200 ans en France. Mais c'est 200 ans de rapport de force permanent. C'est 200 ans durant lesquels, eh bien, la personne détenue, mise sous écrou, est une sous-merde. Est une sous-merde. Et j'ai aujourd'hui le plaisir, la joie depuis quelques jours de pouvoir dire publiquement que nous allons faire un acte, allez, j'ose, qui est révolutionnaire. Nous allons organiser dans les semaines à venir et mois à venir ce qu'on appelle les états généraux de la condition pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on va faire remplir un questionnaire de 8 pages à tous les acteurs du monde judiciaire et pénitentiaire français. Alors ça veut dire que ces 8 pages vont être les mêmes, remplies par les magistrats, les avocats, le personnel surveillant, les familles de détenus, les intervenants associatifs et intervenants en milieu carcéral et les personnes détenues. Première fois en 200 ans d'histoire carcérale que la voix d'un prisonnier, cette sous-merde, aura le même poids qu'un magistrat, qu'un avocat, qu'un personnel de l'administration pénitentiaire. C'est quelque chose qui est proprement une véritable révolution culturelle qu'on est en train d'organiser, l'OIP, avec des syndicats et avec... j'allais dire le patronage entre guillemets de Robert Van Inter, ancien garde des Sceaux. C'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire parce que effectivement c'est la première fois que les prisonniers auront une voix individuelle, mais une voix qui aura, j'allais dire, qui comptera, alors que jusqu'à présent la prison c'est un espace dans lequel le prisonnier n'est rien, pour ne pas dire moins que rien.
Et ce sera quoi l'utilisation de tout ça, de cette issue, en fait.
Pendant 2 mois, à partir de la fin de ce mois, pendant 2 mois, ce questionnaire sera envoyé à l'ensemble des acteurs du monde judiciaire et carcéral par Internet, via Internet. Les prisonniers auront individuellement un questionnaire papier avec une enveloppe T, donc tout sera gratuit pour eux, avec le médiateur de la République qui va leur donner ce document et va récupérer les réponses de ces documents. Et nous allons, durant cet été, trier toutes les réponses. Ça fait quand même plus de 250 000 personnes qui sont globalement concernées par ce questionnaire-là. Et nous allons créer des cahiers de doléances. Je vous ai parlé des états généraux. Ceux qui sont bons en histoire, on dit « Ah, tiens, ça me dit quelque chose ». Et donc, des cahiers de doléances qui seront un petit peu le regroupement de toute cette matière, de cette parole libérée du monde carcéral. Donc, les cahiers de doléances vont être faits en fin de cet été. En début de l'automne prochain, nous allons partir en région faire des grands débats auprès de la population pour dire, voilà, la voix de la prison, ce qu'elle revendique. Et fin octobre, à la mairie de Paris, il y aura les fameux états généraux à conditions pénitentiaires. 3 jours durant, vont se rencontrer tous les acteurs de cette opération et nous allons convoquer les candidats, futurs candidats au présidentiel de 2007 et nous allons leur dire, voilà ce que la France des prisons exige de votre part. Parce qu'il ne s'agira pas de leur dire, voilà, c'est un rapport de plus, voilà, on aimerait bien. Non, on est là pour dire, nous exigeons, la France des prisons exige de votre part ces mesures d'urgence pour qu'on arrête d'être montré en interne, mais surtout sur le plan européen et mondial, par des instances tout à fait sérieuses, montrer du doigt la France comme véritablement attentatoire à la dignité des personnes incarcérées.
Et si tout le monde réclame plus de prison, qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais accompagner ce questionnaire. J'ai la faiblesse de penser que ce que je pourrais dire, ce que diront les acteurs de l'OIP, mais aussi des syndicats associatifs, etc., au moins dans les priorités du discours, il y a de dire ce que je vous ai dit sur le fait que l'histoire nous démontre bien que construire de nouvelles prisons n'est pas la réponse. Et donc il faut trouver ailleurs les solutions. Ceci dit, et tu as raison, et c'est un des risques que prend l'OIP, c'est qu'en libérant la parole, effectivement, nous retourne beaucoup de choses qu'on n'aimerait pas entendre. mais c'est un risque à prendre. Ce qui est important, ce qui est révolutionnaire, c'est que les gens qui jusqu'à présent ont été les sans-voix dans notre société, eh bien que ces gens-là prennent la parole. Quelle qu'elle soit, nous la respecterons.
Il n'y a pas de risque de manipulation ?
L'agence BVA, donc vous connaissez, tout sérieux, tout ça, des gens très sérieux, cravate, tout ça, font le travail, évidemment, avec nous, pour ce questionnaire-là. Tout ça parce que si on n'avait pas une agence comme ça, l'opération n'aurait pas de crédit. Les gens diraient, oui, il y a manipulation, on fait dire ce qu'on veut à ce questionnaire. Non, c'est tout à fait scientifique. Ces gens-là l'attesteront. Comme je le disais, c'est pas évident que ce qui sortira de cette interrogation multiple plaise au président de l'OIP que je suis. Mais c'est un risque à courir.
Moi, je voulais revenir sur le problème d'éducation. Les mineurs.
Vous êtes très intéressé par la prison. J'ai presque envie de vous conseiller d'aller en prison parce que je vois que vous êtes très curieuse de ce monde-là.
Oui, mais j'ai des mineurs qui sont en prison pour une scolarité ou...
Non. Tout mineur, enfin jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire, nous dit-on. Eh bien, dans les prisons, le taux horaire moyen de scolarité est bien inférieur à ce qui est censé être obligé pour une personne qui a, à toute personne qui a moins de 16 ans dans ce pays. Alors évidemment, la solution, là aussi, c'est la construction de nouvelles prisons. Prisons pour mineurs. Il y a 7 établissements qui vont être créés. Et ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que la résistance s'organise. Il y a beaucoup de gens, des éducateurs, mais aussi des citoyens lambda qui disent « Moi, je ne veux pas avoir une prison pour mineurs. Je ne veux pas avoir des enfants en prison dans mon village ou dans ma ville. » Et c'est un phénomène très intéressant qui se voit depuis un an. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à rejoindre ces gens-là qui disent « Bon, on supporte beaucoup l'insupportable dans ce pays, au niveau des droits de l'homme, au niveau de... la politique qui est menée dans ce pays, mais foutre des gosses, des enfants en prison, c'est inacceptable. Ça veut dire que on n'a plus confiance aux générations à venir, aux jeunes, et ça, c'est la pire des choses pour un pays. C'est véritablement la mort programmée d'une société. Et je pense que le point de refuser la prison aux enfants est quelque chose de tout à fait essentiel au niveau de nos résistances individuelles et collectives, aujourd'hui en France.
Les maisons fermées là, pour les mineurs, oui. Ces choses-là, ça avance pas, ça ne fait pas progresser.